débordement d'indignation. Je t'avais un instant dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il y a un mot que j'aimerais développer ce matin, c'est le mot de Hesed. Hesed, H-E-S-E-D, c'est de l'hébreu. Donc quand nous lisons l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu. Et quand nous lisons le Nouveau Testament, c'est en grec. Donc il y a un mot en hébreu qui s'appelle Hesed, et un mot en grec que nous verrons dans le Nouveau Testament qui est Christos. Et ces deux mots-là qui sont utilisés, ce sont des mots qui signifient, c'est des mots très riches, hein, très riches. Alors, concernant l'Ancien Testament, c'est un mot qui traduit la bonté, la bienveillance, la grâce, la miséricorde. Hein, je répète ici, vous voyez, c'est la compassion. J'aurai compassion de toi. C'est le mot compassion. Le Seigneur affirme à Israël, hein, qui est sous l'ancienne alliance, dit dans un débordement d'indignation, hein, on verra qu'il y a dans Hesed bien un opposé aussi, qui est la colère, qui est l'indignation. Je t'avais un instant dérobé ma face. Voyez-vous, nous sommes là parce que nous croyons en Dieu. Vous croyez tous en Dieu ? Dieu personnel, un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui nous a créés. Nous sommes à son image. Donc toutes ces choses, nous sommes là parce que nous croyons à cette réalité d'un Dieu personnel qui a envoyé Jésus-Christ, son Fils. Mais ce Dieu-là, il peut tout à fait avoir deux caractéristiques. Il y en a plusieurs, bien sûr. Mais ce que nous voyons aujourd'hui ici, c'est la bonté, mais aussi la colère. Vous voyez ? La colère, c'est un attribut de Dieu. C'est une caractéristique aussi de Dieu. Alors, si on reprend le mot Hesed, donc qui est traduit ici dans ce passage d'Ésaïe, c'est un concept d'amour loyal, de fidélité, ou plus généralement de bonté, qui en soi est un aspect de relation. Un aspect relationnel. C'est surtout la relation. Vous savez, le paganisme croit aussi, enfin, je ne parle pas de l'athéisme, je parle du paganisme, croit aussi à des dieux. À Dieu. Mais c'est un dieu impersonnel. Ce n'est pas un dieu relationnel. On ne peut pas relationner comme une personne. On peut avoir une communion avec ce dieu-là, hein, mais pas du tout de la même manière que ce que nous voyons avec Israël, qui a rencontré Abraham, il a appelé Abraham. Abraham l'a entendu, Abraham, Isaac, Jacob, tous les patriarches, ensuite après le peuple au travers de Moïse qui a été créé. C'est un Dieu de relation. Et nous avons besoin d'apprendre à relationner avec ce Dieu-là. Ce terme Hesed est utilisé 246 fois, presque autant que de jours dans l'année. 246 fois dans l'Ancien Testament. Et la moitié se trouve dans les psaumes. Vous voyez, les psaumes, c'est David, en grande partie, qui a écrit les psaumes, qui parle de cette relation. Hein, David avait une très grande relation personnelle avec Dieu. Et la moitié se trouve dans les psaumes. Il est couramment utilisé pour définir des attitudes ou des comportements des êtres humains entre eux aussi. Vous voyez, c'est toujours relationnel. Mais la plupart des fois, donc les trois quarts, c'est une disposition de Dieu, une disposition bienveillante envers les croyants, bienveillante envers Israël, son peuple, et bienveillante envers l'humanité en général. Alors, on va voir cinq éléments de cette Hesed, de ce mot Hesed. Premièrement, la Hesed de Dieu contrebalance la colère de Dieu. C'est un paradoxe, hein. Dieu peut être en colère et Dieu peut être dans l'exercice de sa bonté. De même manière que Dieu est amour et il est justice. Voyez-vous, ce sont deux éléments qui sont pratiquement contraires pour nous, mais qui sont en Dieu. Le texte biblique nous suggère que la réaction de Dieu au péché, donc à la désobéissance de l'homme, suit des directions opposées. Par moments, la bonté, hein, la Hesed de Dieu, tempère ou limite sa colère. et son jugement. Dieu dit, dans un instant de colère, je t'avais à un moment dérobé ma face. C'est terrible quand on connaît Dieu et qu'on ne voit plus sa face. Est-ce que ça vous est arrivé? Voilà, parce qu'on est dans le désespoir, on est dans le péché, on a des choses qui n'allaient pas. Donc on peut avoir ce sentiment de l'absence de Dieu. Mais, est-il dit, et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui en sortant de ce culte, il dit, avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Vous voyez, Dieu a toujours compassion de nous et de ses enfants. Le prophète Michée interroge Dieu. Et dans Michée 7, 18, il dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Voyez-vous, la colère et la bonté, la colère et la miséricorde. Mais il prend plaisir à la miséricorde. Il est en colère, mais il aime faire du bien. Dans Jérémie, donc aussi un autre prophète de l'Ancien Testament, dans les Lamentations, il recherche, donc l'auteur, Jérémie, recherche la bienveillance de Dieu dans le malheur. Il la trouve dans l'assurance que l'amour de Dieu se prolongera au-delà de la colère. Il dit, car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. C'est toujours le mot « ezed » qui est utilisé. L'idée forte qui ressort est la suivante. Bien que la colère et l'amour soit deux réactions de Dieu tout aussi légitimes, il a le droit d'être en colère, l'amour survit à la colère. C'est là un point important de la théologie biblique. La colère de Dieu est la bonne attitude, l'attitude légitime, parfois nécessaire, selon certains passages, mais en dernier lieu, Dieu ne reste pas sur ce sentiment de colère. Cet honneur est réservé à son amour infaillible. Pour une meilleure appréciation de cette notion, de ce mot Ezed, il faut noter la réitération des versets qui met en contraste la colère qui dure, mais aussi la Ezed qui dure. C'est dans Exode et Deutéronome, on voit que les deux peuvent durer. Mais une fois de plus, la colère divine et la Ezed coulent de la même source et sont pareillement légitimées au travers de la description des auteurs différents, mais il y a toujours la prééminence de la supériorité de la bonté de Dieu. Le deuxième élément de cette Ezed, de cette bonté, c'est qu'elle triomphe de l'apostasie. Vous savez qu'Israël, très souvent, c'est un peu les montagnes russes, Israël, très souvent ils étaient en bas, mais de temps en temps, ils remontaient. Il y a des rois qui ont établi à nouveau les autels. Imaginez que très vite après David, c'est les fils de Salomon, eh bien, ils ont séparé. Il y a eu la séparation d'Israël et de Juda. Et à la place du temple, ils ont établi des veaux d'or. Et ils sont allés à ces autels, c'était l'apostasie d'Israël, et ça a duré longtemps jusqu'à la déportation, où Dieu s'est mis en colère, en disant c'est pas possible que mon peuple se comporte de cette manière. Dans Jérémie chapitre 31 verset 3, Dieu fait comprendre que l'apostasie, la décadence du moment, ne peut pas empêcher une restauration future d'Israël. Il dit, car je t'aime d'un amour éternel, c'est pour ça que je te conserve ma bonté. C'est-à-dire une restauration qui est prévue, mais à long terme. Dans le moment, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'Israël est trop loin des commandements de l'Éternel. Et dans les psaumes, à la fois Dieu et les adorateurs humains décrivent cette bonté, cette ezed de Dieu comme éternelle. Cette affirmation est développée sous des formes très diverses dans les psaumes, sans arrêt. Dieu restaure son peuple, mais même s'il est dans la confusion et dans le désarroi, il va la restaurer. La troisième chose concernant la Ezed, c'est qu'elle motive la prière. C'est ça aussi qui est important, c'est que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance, nous pousse Maintenant, nous répondons, ne répondons pas. Mais ce n'est pas la sévérité de Dieu qui pousse à la repentance, c'est la bonté de Dieu. Parce que cette bonté montre combien Dieu nous aime malgré nos défauts, malgré nos erreurs, malgré ce qu'on fait de travers. Cette aisette divine, et c'est ce qui permet ou motive l'homme à prier ou s'approcher de Dieu, à demander la grâce, à intercéder, peut-être pour quelqu'un, peut-être pour des enfants, peut-être pour des proches qui se sont éloignés de lui. On est motivé parce qu'on sait que Dieu va agir dans sa compassion. Vous voyez, après les 12 espions qui ont donné leur rapport, rappelez-vous, quand ils sont allés en Canaan, Moïse intercéda en faveur du peuple, car leur message n'avait pas été retenu, n'était reçu avec enthousiasme. Il cite le Seigneur lui-même dans Nombre. Il dit « Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient pas coupable le coupable pour innocent, selon la grandeur de sa hésette, de sa miséricorde. » Voyez-vous, le coupable, il est coupable. Il faut passer par la croix pour être restauré. La croix est là. Dieu a pourvu pour que Christ puisse donner un amour, un pardon qui est accessible à n'importe quel moment. Mais il y a la colère de Dieu. Cette colère a frappé Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut venir à la croix. Parce que là, tout a été accompli. Et là, la colère de Dieu s'est manifestée parce qu'il a porté nos péchés. Alors certaines demandes de pardon renforcent l'idée que Dieu peut choisir de se souvenir soit du péché, soit de la hésette, mais nullement les deux en même temps. Voyez-vous, c'est pour ça que la repentance est absolument une priorité pour le chrétien. Si on néglige la repentance, si la repentance n'est pas au centre de notre foi, au centre de notre vision de l'Église, eh bien, on n'a plus de recours, puisque la colère reste sur nous, même si on est chrétien, parce que on pêche. Jacques a dit, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est quoi? C'est un menteur. On pêche, parce que notre nature est pécheresse. Mais la repentance, la croix, elle est là pour nous ramener dans la hésette, dans la bonté de Dieu. Parce que Dieu a manifesté sa bonté à la croix et il a ressuscité Jésus parce qu'il était juste. Amen. Un autre point, c'est que cette hésette, elle guide le peuple. Elle guide, vous voyez, ce peuple que nous sommes, hein, c'est pas parce que nous sommes sur la nouvelle alliance qu'il n'y a pas de peuple. Hein. Sauf que ce peuple-là, c'est plus le peuple réservé aux Juifs, c'est toutes les nations, toutes les races, c'est tous les humains. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voyez. Donc aujourd'hui, nous sommes un peuple. Sauf que ce peuple, effectivement, a plus de mal à se retrouver que les Juifs. Parce que les Juifs avaient la même peau, ils avaient la même culture, en plus la culture était rodée par la parole de Dieu, hein, où il y avait les lois, il y avait les scribes et tous ceux qui veillaient à ce que ces lois, sinon vous étiez mis à l'index, vous ne pouviez plus être juif, vous voyez. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas ce légalisme, je dirais, cette loi aussi forte, mais il y a une loi. C'est la loi de l'amour, c'est la loi de la tolérance réciproque, de l'acceptation de l'autre, cette koinonia hein, dont on a parlé dimanche dernier, Jacques en a parlé. Et donc, effectivement, il faut se retrouver maintenant de toutes les cultures ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on fait hein? Aujourd'hui, donc, on vit ce qu'on appelle le communautarisme. C'est ça qui détruit un petit peu tous les pays. Hein. C'est pas que la France, vous voyez, l'Autriche, Martin. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres cultures qui arrivent, effectivement, dans un pays. Jusqu'à présent, bon, les Français, ils avaient la baguette, le béret, ces symboles hein, qui les rassemblaient sous une même culture. Il faut accueillir d'autres cultures. Et ça, c'est difficile. Parce que personne ne veut lâcher sa culture. Personne. Voyez le chrétien, il est supposé adhérer à la culture du royaume. Et là, ça grince, parce que la culture du royaume, elle n'est pas que spirituelle, elle est aussi relationnelle. Il a dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain. C'est qui ton prochain? Dis à ton voisin, ta voisine, tu es mon prochain. Hein? Déjà, hein? Déjà dans le couple, hein? Déjà le couple est différent, hein? L'homme, la femme, totalement différent. Mais ensuite, après, il y a toutes les cultures. Puis maintenant, il y a des mariages interculturels. Les Coréens, les Français, toutes sortes de cultures. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Il faut le reconnaître. C'est un défi. Mais en tant que chrétien, on est supposé surmonter ce défi. Parce que dans le ciel, on sera tous ensemble. On sera tous ensemble. Et vous voyez, on ne sera pas simplement voilà, des petits angelots qui seront décorporés. Non, justement, le message chrétien, c'est que nous aurons un corps. Sauf que ce corps sera changé, il sera un corps de résurrection. Mais c'est un corps que nous aurons. Hein. Donc aujourd'hui, nous pouvons déjà expérimenter qu'ayant un corps, bien sûr, il est soumis à la maladie, aux problèmes, etc. Ce qui ne sera plus le cas dans l'éternité. Mais nous aurons un corps. Donc n'attendons pas l'éternité. L'éternité commence maintenant. Elle existe maintenant. Il y a des choses qui seront changées, mais des choses qui vont rester. Les relations interpersonnelles et tout ça, ça va rester, les amis. Donc aujourd'hui, bien sûr, il faut utiliser la croix. Parce que la croix remet les pendules à zéro, nous permet à nouveau de restaurer une relation qui parfois a subi des dégâts pour différentes raisons que la vie nous a infligées. Le dernier point sur la EZ, c'est que la EZ de Dieu fonde un royaume éternel, un règne et une autorité éternelle. La EZ divine caractérise le règne de Dieu et établit son roi. L'auteur du psaume 89, verset 14, déclare « La justice et l'équité sont la base de son... » Vous connaissez la verset ?« De son trône. » Le trône de Dieu, le trône c'est fait pour quoi ? Fait pour régner. C'est le symbole du règne. Bien, le trône de Dieu, le fondement, la base, le fondement de son trône, donc de l'autorité qu'il exerce, c'est la justice et l'équité. Il y a une différence entre la justice et l'équité. L'équité, c'est vraiment ce qui est légitime dans l'exercice de la justice, qui est légitime, qui est juste de manière égalitaire. Aujourd'hui, par exemple, les hommes ont inventé les droits de l'homme, mais bon, c'était déjà écrit dans la Bible. C'est que tout homme, quelle que soit sa race, etc., sa position sociale, il est égal. Vous voyez ? Donc ça, c'est l'égalité des droits de l'homme. Mais Dieu, il a déjà établi cela. Qu'il n'y a pas un supérieur, un inférieur, etc. C'est le problème du péché qui a fait ça. Vous voyez, par exemple, dans l'Église, nous, on a la vision. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de la vision qu'on va aborder samedi. Ça fait partie de ça. C'est que dans une vision, dans la vision de l'Église, il y a trois choses qui sont importantes. Alors, je vous fais un peu travailler peut-être en avance sur samedi. Vous savez, il y a une vision de l'Église qui est totalement variée suivant les endroits où vous êtes dans l'Église. Je ne parle pas de l'Église catholique, protestante, évangélique, mais même dans les Églises évangéliques, il y a des avis totalement différents. Or, normalement, l'Église, quelle est l'autorité, quel est le pouvoir qui doit s'exercer dans l'Église? Je formule mal mes questions parce que je connais les réponses. Donc j'essaie de formuler en fonction des réponses. Donc c'est pas évident pour vous. Mais lancez-vous peut-être à me dire quelque chose. Pour vous, l'Église, c'est quoi comme pouvoir qui doit s'exercer dans l'Église? Rose, tu as une idée? Tu n'oses pas la dire? Non, alors, voilà, je me suis mal exprimé. Vous voyez, quand vous parlez, ça me permet de voir que j'ai mal posé la question. Je parle du pouvoir. Vous voyez, par exemple, je ne vais pas vous donner les réponses, je vais vous donner tout à l'heure. Quel est le pouvoir qui doit s'exercer? Alors, le pouvoir en grec s'appelle une crassie. Alors, il y a quelque chose avant, une crassie. Donc c'est Jésus, donc c'est une christocratie pour toi. Ouais, parce que ça se parle en grec, hein. Donc christocratie. Donc c'est une théocratie. Théocratie, christocratie, pour toi c'est la même chose. Non, parce qu'il y a des églises qui font la différence. Hein. Bon. Mais donc une théocratie ou une christocratie, je préfère la christocratie, ce que tu as dit en premier, parce que Jésus est Dieu, je suis d'accord avec toi. Quand on est trinitaire, peu importe, c'est une théocratie, une christocratie. La théocratie, c'est le régime, on appelle ça un régime politique, un régime de gouvernement, un régime de... Voilà, parce qu'on est dans le gouvernement de Dieu, hein, le règne, le royaume, c'est le gouvernement de Dieu. Donc, une théocratie, l'Israël, si vous voulez, c'est une théocratie. C'est Dieu qui règne. Alors, il n'y a pas Jésus encore. Hein. Donc, Israël, c'est une théocratie. Je préfère christocratie pour le Nouveau Testament. D'ailleurs, les professeurs du Nouveau Testament préfèrent christocratie aussi. Donc, tu vois, tu as bien visé, Colette. Mais les deux sont vrais, théocratie, christocratie. Mais est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il n'y a que le pouvoir de Christ, qui est la tête de l'Église, qui est sur l'Église? Est-ce qu'il n'y a que ce pouvoir-là? Et là, ça commence à être plus difficile pour vous, mais c'est ça la vision. Pardon? Non, mais je ne vais pas rentrer... Oui, tu as peut-être raison, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails de l'Église. Il y a trois crassies, il y a trois autorités qui s'exercent dans l'Église selon le Nouveau Testament. Donc, j'essaie de trouver avec vous les trois. Donc, Dieu ou Christ. Il y a une autre crassie. C'est quoi? Mais osez le dire, osez le dire. Vous n'osez pas parce qu'il y a une mauvaise connotation. C'est la démocratie. La démos, c'est le peuple. Oui? Non, mais on n'ose pas le dire parce que, en général, les églises sont hiérarchiques. Allô? Il y a le pape, il y a le soupape, enfin, la soupape, un jeu de mots, les cardinaux, les évêques, etc. Ouais. Ok? Voilà, donc on n'ose pas. Les catholiques vont jamais dire que c'est une démocratie. Mais je suis désolé, c'est une démocratie. Allô? Et la troisième, alors elle est plus difficile à trouver, la troisième. Il y a trois crassies, il y a trois pouvoirs qui doivent s'exercer dans l'Église de la même manière. Ouais. J'anticipe la vision, hein, mais vous la connaissez normalement parce qu'elle est affichée. Hein. Alors Rose, vas-y, tu aimes bien te lancer. Il est peut-être parti parce qu'à chaque fois qu'il y a des mariages, tout part et puis après ça se remet pas. Donc. Il faudrait quelqu'un qui gère les panneaux d'affichage pour remettre les choses qui ont disparu. Oui, il était affiché. Oh la crassie, oh là là. Ah, tu vas les perdre là. Non, 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 mais on ne va pas rentrer dans la crassie, c'est trop compliqué à expliquer. C'est actuellement les entreprises sont holacratiques. Enfin, les entreprises modernes, agiles. Non, non, il y a un autre pouvoir qui doit s'exercer. Ben c'est les anciens. Vous avez déjà entendu parler des anciens? Un ancien, c'est quoi? Un vieux? Alors, tu connais pas bien ta Bible, hein, parce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, t'es un ancien, il était jeune. Hein. Non, c'est une qualité. Pardon? Alors, les diacres, c'est les assistants aux anciens. C'est les assistants. Ils assistent, ils aident les anciens. Mais les anciens... Dans toute société, il y a des anciens. Dans toute société. En Afrique, vous le savez, mais en France aussi, on est des anciens. Sauf que, voilà, on les appelle des vieux. Voilà. Non, les anciens, c'est ceux qui ont une sagesse. Qui ont un aspect sage, de sagesse. Qui ont vécu dans une vie qui leur a amené à gérer des difficultés, des problèmes, voilà, hein, toutes sortes, etc. Et cette sagesse est venue et qui leur permet de gouverner. De gouverner, ben, normalement, tous les chefs de famille doivent être des anciens. Alors, vous me suivez? Il faut bien que quelqu'un dirige dans une famille, hein, avec sagesse. Ben, ça s'appelle un ancien, ça s'appelle un père de famille, un ancien. Alors, dans les églises, on peut appeler ancien, mais ça peut être aussi pasteur, ancien, vous voyez, superviseur, évêque, bon, épiscope, voilà. Alors, après, on rentre dans des organisations d'église. Mais ces trois éléments doivent coexister dans une église. pouvoir de Christ, le pouvoir du peuple et le pouvoir des anciens. Donc d'une certaine sagesse. Parce que sinon, ça ne marche pas. Aucune civilisation ne marche, aucune culture ne marche. Ce n'est pas des anciens. Ce n'est pas quelqu'un qui régule, qui contrôle. Il y en a qui sont d'accord avec moi ? Non, mais juste vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde. Ben oui, c'est trois. Or, pardon ? C'est les anciens. Alors, on peut appeler ça presbytérocratie, parce que presbytre, c'est ancien. Bon. Si on veut tout parler en grec, c'est presbytérocratie. Bon, si vous voulez, les réformés, Calvin a établi dans son grand document qui s'appelle l'Institution chrétienne. Il a expliqué tout ça parce que Calvin est allé plus loin que Luther dans la réforme de l'Église. Et donc c'est presbytéros. Presbytéros, c'est les anciens, c'est grec. Presbytéros, c'est pas les prêtres. Alors l'Église catholique a transformé en prêtre et c'est faux. Un prêtre, c'est sacerdoce. Vous voyez, donc il y a dans le langage français, il y a une grosse confusion entre prêtre et ancien. Or c'est les anciens, c'est pas les prêtres. Prêtres, on est tous prêtres. Tous nous sommes prêtres. C'est la réforme protestante hein, qui établit le sacerdoce universel. Mais avec les catholiques, c'est compliqué. Vous voyez, tous ces mots. C'est pour ça que la vision est totalement différente suivant les églises. Voilà. Voilà, donc je répète. Pouvoir de Christ, pouvoir des anciens. C'est pour ça que Jésus, quand il a établi son église, vous avez les trois pouvoirs, il a dit « Tu es Pierre, Pétros. Et sur cette pierre, Petra, je bâtirai mon ecclésia. » Pétros, c'est l'ancien. Ancien parmi les douze. Petra, c'est Christ. Ecclésia, c'est la démocratie, c'est le démos, c'est le peuple. Vous voyez ? Quand ça, on ne comprend pas, ou quand on comprend autrement, eh bien, on agit différemment quand on est dans une église. Vous voyez ? Et on respecte. Vous respectez Christ ? Oui ? Non ? Ça, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous respectez les anciens ? Vous savez, aujourd'hui, on se pose des questions. Hein. Et est-ce que vous respectez le peuple, la démocratie ? Encore moins, encore moins. Quand vous voyez les assemblées générales, elles sont désertes. Vous voyez ? Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que c'est qu'une église. Voilà. Mais bon, je ferme la parenthèse pour montrer qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses parlées du règne. Dans la Trinité, il y a quoi ? Il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir du Père, le pouvoir du Fils et le pouvoir du Saint-Esprit. C'est les trois. Est-ce que vous considérez que le Saint-Esprit est inférieur au Père ? Que Christ est inférieur au Saint-Esprit ? Non. Vous voyez, vous ne faites pas cette logique. Mais dans le monde, dans l'Église, vous faites des logiques. Pourquoi ? Parce que vous avez des références d'Église, mais qui ne sont pas dans le Nouveau Testament. Donc vous adoptez les pensées du monde. Vous les pensez, voilà. Et donc c'est ça qu'il faut réviser en s'appuyant sur la parole de Dieu, la parole de Christ. Christ a établi son église en disant « Tu es Pierre, ancien, tant qu'ancien, et sur cette pierre, Christ, je bâtirai mon église, qui est le peuple de Dieu. » Et c'est pour ça qu'il faut respecter le peuple. Il faut respecter chaque individu, parce que chaque individu est précieux. Et quand on réalise ça, eh bien, on voit les choses autrement, et on se comporte de manière différente. Donc on revient au règne, la Hesed, la bonté de Dieu. C'est le règne de Dieu qui établit son roi. La justice et l'équité. J'ai dévié sur le peuple pour parler de l'équité. Chacun, le plus petit et le plus grand. Si vous commencez à faire une différence, vous n'êtes plus dans une démocratie, ça veut dire que vous n'écoutez plus le peuple. Vous mettez des élites. Vous mettez des aristocrates ou des bourgeois, bon, parce qu'ils ont de l'argent, et le peuple. Et c'est aujourd'hui. Pourquoi il y a les gilets jaunes et tout ça ? Parce que le peuple se sent méprisé. Il sent bien que tout l'argent va aux riches, et plus en plus aux riches. Et voilà. L'équité, ouais, c'est ça l'équité. La base du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Et quand il n'y a plus d'équité, eh bien, il y a la colère. Il y a le peuple qui gronde. Voyez. Pourquoi Louis XVI a été décapité ? Parce que ça allait trop loin. Il y avait la richesse dans la cour de Versailles, il avait tout ça, etc. Il n'y avait plus d'équité. Et ça ne peut pas marcher, une société où il n'y a pas d'équité. Bien, je vous rassure, quand on sera avec le Seigneur, il y aura de l'équité. il prend soin de chacun, du plus petit jusqu'au plus grand, du plus faible jusqu'au plus fort, de tout un chacun. Et c'est ça qui doit être dans l'Église, manifester l'équité. Il ne faut pas attendre l'éternité, nous sommes dans l'éternité. Hello ? Nous sommes dans l'éternité. Quand on a rencontré Jésus, on est dans l'éternité. Et donc dans cette éternité présente, comme future, eh bien, il faut que chacun puisse se sentir aimé. Et ça, c'est le rôle des anciens. Le rôle des anciens, de veiller à cette équité, qu'il n'y ait pas de déséquité, si vous voulez, qui se produise, que chacun soit pris en compte. Et c'est le rôle du pasteur en tant qu'ancien, puisque pasteur ancien, voilà, c'est une question de définition, il doit prendre soin de toutes les brebis. L'Ancien Testament a beaucoup à dire au sujet du lien entre la hessed et la royauté. Là, on parle du règne. La royauté, la bonté. Dans cette bonté de Dieu qui se manifeste dans son règne, il y a cette justice, cette équité. Et contrairement à la tentative ratée de la dynastie, le nouveau roi, donc David, contrairement à Saül, le nouveau roi, on lui promet une maison. Une maison ? Vous voyez, on a la maison de Monaco, la maison, enfin, les maisons, c'est des dynasties qui étaient régnantes et qui ont marqué un peu leur époque, etc. Et là, au-delà d'une dynastie, c'est une maison. David a une maison. Et l'Église, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul ? Il dit que c'est une maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, eh bien, c'est tous qui nous sommes dans cette maison. Toute race, toute langue, toute personne différente est dans cette maison. Et nous sommes une maison. Une maison qui ne va pas disparaître parce qu'elle est bâtie sur le roc, la parole. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur Christ, la christocratie. Elle est bâtie sur Christ. Et cette maison ne veut pas disparaître. Et dans ce royaume éternel, on est basé sur la promesse de Dieu. Et la promesse à David, c'est qu'il ne dépouillera jamais la maison de David. Et plus tard, David chante l'accomplissement de cette promesse dans 2 Samuel, chapitre 22, 51. Non seulement envers lui, mais aussi envers ses successeurs. Cette maison de David va donner naissance à Jésus. Donc c'est une maison qui sera bénie. Jusqu'à Jésus, parce qu'il a manifesté sa bonté à David, parce que David, malgré ses péchés, qui étaient horribles pour certains, eh bien, Dieu lui a fait la promesse qu'il voyait son cœur attaché à la bonté du Seigneur. Salomon va plus loin. Puis leurs descendants insistent sur la nécessité du renouvellement de la promesse. Et ils lui font quand même confiance, alors même qu'aucun descendant de David n'en bénéficie concrètement. Je parle des descendants de la royauté, sauf Christ. Donc même en l'absence de ce thème davidique, la Hesed fait office de règle établie. Ce sont les faveurs qui sont données en faveur de David. Alors venons-en au Nouveau Testament. Le mot grec qui est dans l'original, que devraient tous lire dans l'original grec, pour avoir toutes les facettes d'un mot. Parce qu'un mot renvoie à beaucoup de réalités. Le mot « Christos » est encore plus riche que « Ez ». Ce mot vient d'une disposition affective d'une volonté. Est-ce que vous avez tous une volonté ? Vous voyez la volonté déjà dans les petits-enfants. Ils savent ce qu'ils veulent. Cette disposition d'une volonté qui vise le bien. Parce qu'il y a une volonté qui vise le moi, en général. Je veux ça. Bon, c'est une volonté. J'ai envie de ça, un désir, etc. Mais la Christos, quand le mot est utilisé, ça vise le bien pour le bonheur des autres. Oui. Et le latin, alors on parle du grec au latin, tu passes du grec au latin. Le latin, c'est bénévolens. Bénévolens, ça donne bénévole. Bénévole, hein, c'est bénévole. Quand vous avez des bénévoles, vous connaissez les bénévoles ? Il y en a des bénévoles ici ? Dans des associations. C'est quoi ? Vous visez le bien des autres. Vous donnez du temps pour d'autres. Les bénévoles. C'est ça le mot Christos. Quand c'est utilisé dans le Nouveau Testament, eh bien c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire utiliser son temps pour le bien des autres. Les synonymes de ce mot Christos, c'est affabilité, aide, altruisme, amabilité, bienfaisance, bonté, charité, compréhension, douceur, gentillesse, grâce. Là, vous voyez la limite des traducteurs. Traducteur, traître. On dit traducteur, traître. Parce qu'un traducteur, il est obligé de choisir parmi tous ces mots-là. Parce que tous ces mots-là, il n'y a qu'un seul mot en grec, Christos, et ensuite après, il est utilisé dans des phrases différentes, dans des exceptions différentes. Et ce sont tous. Donc le traducteur, il doit choisir un mot là-dedans. Donc comme il choisit un mot, il ne choisit pas l'autre, parce que suivant les langues, on a développé d'autres mots. Voilà. Juste pour vous donner un aperçu des difficultés de traduction biblique. Ça, il y a différentes traductions, versions bibliques qui essayent de rendre l'original. Revenons au Nouveau Testament avec ce mot Christos, qui, quand même, au fond, traduit la bonté. Mais c'est une bonté plutôt en action. Vous voyez, ce n'est pas une bonté passive. Je suis bon. Voilà, je suis bon avec toi. Non, je suis bonté en action. Je te fais du bien. Et c'est une qualité en soi. La bonté qui s'exprime par des actes. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dira « Si tu exprimes ta foi, mais que tu n'exprimes pas des actes, bien, tes actes démontrent que tu n'as pas la foi. » La foi et les œuvres, c'est à cause de la bonté. Parce que la bonté en elle-même, tout au moins dans le Nouveau Testament, plus que dans l'Ancien, vous avez vu tout à l'heure l'Ancien, plutôt la bonté de Dieu, là, c'est plutôt tourné vers les hommes. Est-ce que les hommes manifestent cette bonté, cette hésède envers d'autres, et cette Christos maintenant dans le Nouveau Testament. Ce sont des actes de grâce, de compassion. Alors, il y a une chose qui est très importante, parce qu'on est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, un chrétien, il est un petit Christ, c'est ça, chrétien. Donc en fait, il a Christ en lui. Alors, quand vous avez accepté Jésus, vous avez Christ qui est venu habiter en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, en tant que temple du Saint-Esprit, vous avez la possibilité, par Christ, de manifester cette bonté. Non pas par vous-même. Les hommes peuvent manifester une bonté. Mais, en tout cas, le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est un mot qui va plus loin. C'est-à-dire, c'est vraiment, on se donne pour les autres. Et ça devrait nous parler aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens se donnent vraiment? Alors il y en a qui se donnent à fond, hein. C'est pas ça non plus, il n'est pas demandé qu'on soit des martyrs en se donnant, hein. Là, Jésus l'a fait une fois, on ne se donne pas pour obtenir un salut. On se donne parce que nous imitons Christ qui a aimé, qui nous a aimés. Et donc en se donnant, eh bien, on manifeste que Christ est en nous, le même esprit de la bonté de Dieu. Et ça, eh bien, l'homme est incapable de cette qualité de bonté, ce qu'on appelle la charité en français, mais j'aime pas trop ce mot-là, c'est plutôt l'agapé. L'agapé, c'est le mot grec qui veut dire un amour qui est au niveau de Dieu. C'est pas accessible à l'homme. L'agapé de Dieu, c'est Dieu qui manifeste un amour qui est totalement... il a donné Jésus alors que Jésus n'a rien fait. Il est Dieu. Voyez, mais il a donné son Fils pour en rançon pour nous. Ça, l'homme n'est pas capable de le faire, un amour sacrificiel. Donc l'homme est incapable de cet amour, mais le chrétien, devenu enfant de Dieu, et c'est là qu'on voit le chrétien né de nouveau et le chrétien qui adhère comme une religion chrétienne. Le drame, c'est quand les églises se remplissent trop vite, sans réveil. Quand il y a un réveil, les gens sont nés de nouveau. Mais quand quand les églises se remplissent sans le réveil, vous voyez, on avait un frère en disant « Non, mais vous savez, il faut faire la meilleure louange, la meilleure école du dimanche, la meilleure... etc. et votre église va se remplir. » Je dis « Ok. » Donc ça repose sur quoi? Ça repose sur le fait qu'on va attirer des gens par notre excellence sur le domaine des capacités dans les départements qu'on mène. Vous croyez que c'est ça une église ? Alors effectivement, c'est comme ça que fonctionnent les entreprises. Moi, j'ai été dans une entreprise, effectivement, on était assez loin derrière les Américains. C'est, à l'époque, c'était aérospatial, hein, parce que j'ai travaillé aérospatial. Après, ça a fusionné, maintenant, ça s'appelle Airbus. On est arrivé à peu près côte à côte avec Boeing. Ce n'est pas le cas avant. Donc, les entreprises, ils boostent les employés pour dire il faut devenir soit le deuxième ou le premier. Et donc, on y va. C'est pas comme ça qu'une église fonctionne. Une église ne fonctionne pas en boostant les gens, en devenant les meilleurs dans tous les domaines des services qu'ils offrent. Et vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais il y a quand même des... Nous, on a été coachés comme ça, par des chrétiens qui voulaient qu'on fasse ça. Le problème, c'est que nous, on croulait, parce que ça reposait tout sur nous. On devait être bons dans tous les domaines, vous voyez, pour arriver à ça. Et donc là, on a dit non. Nous, on est des humains. Non, c'est le Seigneur qui va le faire au travers de nous. Donc, il faut exercer la foi. Il faut exercer la foi que Dieu le fasse au travers de nous. Alors, que Dieu le fasse au travers de nous. Et c'est ça la vision de notre Église. Philippiens 2.12. Qu'est-ce qu'il dit, Édouard, Philippiens 2.12 ? Travaillez votre salut. Waouh ! C'est une conception catholique, ça. Travaillez votre salut. Pardon ? En plus, avec crainte et tremblement. Tu vois, Philippe rajoute avec crainte et tremblement. Donc attention, hein. Il y a le purgatoire derrière, vous pouvez peut-être vous racheter, mais bah oui, mais c'est ça, travailler. Comme on n'y arrive pas avec crainte et tremblement, bah, il y a des sanctions derrière. Okay, mais qu'est-ce que dit le verset 13 ? Ceux qui connaissent Philippiens 2, 12 et 13. Ah, vous regardez vos iPhones, c'est bien. Ça, c'est un verset, quand je me suis converti, quand j'ai rencontré Michel, c'est un verset qui me taraudait. Je dis, je ne comprends pas ce verset. Pourquoi ? C'est un paradoxe. Ben oui, c'est un paradoxe, on ne les comprend pas. Si on est d'une logique simple, on prend un et on exclut l'autre. Ben, les deux sont vrais. Travaillez à votre salut. Et qu'est-ce qui est marqué après, Franz ? Tu l'as sous les yeux ? Alors, moi, j'ai appris quand j'étais petit, mais donc en quart. Ce sont... hein, c'est ça ? Bon, le quart veut dire quoi, ça ? Quand une phrase introduite par quart, hein ? Travaillez votre salut, c'est quart. Hein ? On vient de dire la conséquence. Donc il faut bien... Il faut pas enlever le quart, parce que ça explique l'ensemble des deux versets, parce que vous savez, les versets... Ça n'existait pas, ça, quand ça a été écrit, c'est écrit d'un seul trait. C'est une phrase. Car c'est Dieu qui produit en nous. Alors, vous voyez, on n'est pas une entreprise, là. Dans l'entreprise, c'est toi qui produis. Si tu ne produis pas, tu es viré. Si tu ne produis pas, tu n'as pas ta prime à la fin. Si tu ne produis pas, tu as ton entretien annuel, voilà. Hein, ça, tac, 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 c'est pas bon, oui, mais... Hein, cette année, tu n'auras pas 10 000 euros, tu auras 100 euros. Ouais, je parle de Carlos Ghosn, là. Et des grosses primes. Voilà, ça, c'est l'entreprise. Mais dans l'Église, c'est qui produit le vouloir et le faire ? Oui, mais alors, je m'adresse à tous les chrétiens qui stressent. Il y en a qui stressent, là ? Vous osez... Non ? Vous stressez jamais ? Ah ! Vous me soulagez, vous êtes honnête. Okay. Bon, bah, si vous stressez, vous n'êtes pas dans ce verset. Ouais. Donc, on a des progrès à faire. Ben oui. Attendez, il faut rester logique. Si on stresse, qu'en entreprise, vous stressiez, c'est normal. Vous êtes... Bon, alors, je vous conseille de prier, parce que le Seigneur peut vous aider aussi en entreprise. Hein. Bon. Mais ça, c'est une autre chose. Mais dans l'Église, c'est absolument normal qu'on stresse pour ça. Mais attention, c'est souvent les pasteurs qui mettent la pression. C'est pour ça, moi, qui ai compris ce verset depuis 50 ans, je ne mets pas la pression. Parce que je sais que si Dieu ne le fait pas, ce n'est pas moi qui vais mettre la pression. Je suis désolé que l'Église n'avance pas mieux, mais c'est tout, je fais un constat. Et je sais que si vous vous approchez du Seigneur, eh bien, l'Église va faire des progrès, parce que le Seigneur en vous va faire des progrès. Amen. Va pouvoir faire des progrès. voyez, la vision est pas tout à fait la même. Ce qui fait que moi, je mets pas la pression. Vous, vous n'avez pas à vous mettre la pression. Et quand vous comprenez que vous ne mettez pas la pression, mais que vous laissez Dieu agir en vous, ben les choses changent. Hein ? Parce que Dieu est capable. Vous avez la foi que Dieu est capable de tout faire. On le chante. Ben, s'il est capable de tout faire, ça veut dire que si ça ne se passe pas, c'est que moi, je mets un frein à Dieu. Ben, je mets un frein à Dieu. C'est parce que je n'ai pas assez la foi. Parce que je ne laisse pas assez le Saint-Esprit agir au travers de moi. J'essaye de faire des choses que Dieu ne me demande pas. Alors attention, ce n'est pas la passivité. Hein. Travaillez votre salut, ce n'est pas de la passivité. Travaillez votre salut, car c'est Dieu qui est. Vous voyez, c'est les deux à la fois. Et là, on est dans la vision trialectique, donc des paradoxes qu'on verra samedi. Je reviens rapidement au Nouveau Testament avec ce mot Christos, qui signifie tout ce que je viens d'évoquer, en particulier bonté manifestée par rapport aux autres. Donc l'homme est incapable de lui-même, mais le chrétien, devenu enfant de Dieu, est appelé à montrer, il a une vocation, appelé à montrer à l'égard des autres la bonté que Dieu lui a manifestée. C'est ça l'image de Dieu. Être à l'image de Dieu, c'est manifester sa bonté au travers de nous. La bienveillance est en Dieu qui cherche à sauver l'homme. Méprises-tu les richesses de sa bonté et la bonté te pousse à la repentance. On l'a vu tout à l'heure dans Romains 2, verset 4. Quelque chose d'important dans le Nouveau Testament, c'est que la bonté et la bienveillance sont étrangères à l'homme sans Dieu. Dans Romains 3, 12, il n'y a aucun qui pratique la bonté, pas même un seul. Notre contexte et ses conséquences, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un monde d'égoïsme, de dureté, de malveillance, de compétition, où l'homme a sa propre victime. Il y a la détresse, la solitude, la méfiance, la misère, l'absence de repos. Mais la bonté de Dieu, c'est le caractère de l'enfant de Dieu. Dans Luc, par exemple, il est dit « Aimez vos ennemis ». Aimez vos ennemis. Non seulement il faut aimer l'autre, mais il faut aimer l'autre qui est un ennemi. Allô ? Est-ce que vous êtes capable de le faire ? Non ? Mais en Jésus, oui. En Jésus, oui, parce que Jésus a aimé ses ennemis. À la croix, il a aimé ses ennemis. Faites du bien et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon. C'est dans Luc 6, 35, vous pouvez le regarder chez vous. Dans Colossiens 3, 12, il est dit « Revêtez-vous donc, comme les élus de Dieu, d'affection, de miséricorde, de bonté. » Et enfin, si dans ce cadre-là, la bonté est le caractère du serviteur de Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, 6, il est dit « Nous nous recommandons comme serviteurs, doulos de Dieu, par la bonté qui se manifeste en Dieu. » Alors tout à l'heure, je vous ai dit les trois pouvoirs qui doivent s'exercer dans une église à part égale, pouvoir de Christ, le pouvoir du peuple, démos, le pouvoir des anciens. Moi, je préfère un autre mot que j'ai introduit dans la vision, c'est le pouvoir de serviteur, d'être serviteur. Donc c'est la doulocratie, c'est un peu plus facile que la presbytérocratie. Hein. Doulocratie, doulos, vous devez être des doulos, des serviteurs. Paul était un serviteur, les apôtres des serviteurs, ils sont allés jusqu'à la mort. Okay. Donc, doulocratie, ça renvoie pasteur, ancien, peu importe l'organisation de l'Église. Mais il faut des serviteurs. Il faut des gens qui servent, qui font fonctionner l'Église, non pas comme un service, hein, département, voilà, je fais ça, voilà, maintenant je suis en vacances, ou ma journée est terminée, etc. Non, le serviteur, il est en permanence prêt à servir. Vous voyez ? Prêt à servir. Comme les scouts. Prêt au service. Et c'est ça la caractéristique de ce troisième pouvoir qui doit s'exercer. Et là, l'Église sera bien dirigée. Allô ? Vous croyez ? Quand il y a des serviteurs selon cette compréhension que nous venons de voir dans la parole de Dieu. Je termine rapidement avec trois autres approches de ce terme de bonté. La bienveillance est l'activité de l'amour et le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, il est cité les fruits de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance. Alors, bienveillance, c'est le mot Christos. Oui. Donc, c'est un fruit de l'esprit. C'est pour ça, tout à l'heure, quand on parlait de rechercher à faire cette bonté, c'est un fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui nous porte. Et comment on porte un fruit ? C'est pas en tirant sur les branches, hein. C'est en laissant la sève monter. Et le fruit se produit tout seul. Et c'est quoi la sève du chrétien ? C'est le Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Donc laissez le Saint-Esprit agir en vous et vous manifesterez cette bonté. Enfin, la bienveillance trouve son modèle en Jésus-Christ. Un modèle que Jésus a déployé. Dans Acte 10, Jésus-Christ a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Et dans 2 Corinthiens 10, je vous exhorte par la douceur et la bonté du Christ. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et dernier point que j'évoquerai ce matin, c'est la bienveillance se traduit toujours par des attitudes, des paroles, des actes précis qui cherchent le bien. Dans Luc 6, 35, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Ne jugez pas, ne condamnez pas. Dans Éphésiens 4, 32, il est parlé des uns à l'égard des autres, soyez bons, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous pardonne. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 12, revêtez-vous d'affection, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant, vous pardonnant comme le Christ. Alors là, on évoque le mariage de Maxime et de Sonia, se pardonner mutuellement dans le couple. Ouais, ça commence par là, se pardonner. Si on commence pas à se pardonner chez des chrétiens, bah, à qui vont pardonner ? Ouais. Le pardon doit être au centre, parce qu'on faute tous, on a tous, eh bien, on manque la cible que Dieu nous met. Donc, pardonnons-nous les uns les autres. Et là, nous allons manifester la bonté de Dieu. Amen. Je laisse le soin au groupe de maison de réfléchir à pourquoi la bienveillance, à comment la bienveillance. Et la bienveillance, c'est une découverte extraordinaire. Je laisse le soin au groupe de maison de développer ces notions de bienveillance qui sont absolument la base de notre qualité de chrétien. Si nous n'avons pas cette bienveillance qui est en Dieu, mais aussi la colère. Attention, ce n'est pas la même colère que Dieu. La colère de Dieu, elle est juste. Elle est juste. La nôtre, elle est souvent injuste. Souvent injuste. Mais il y a des colères qui sont justes. Il y a des colères qui sont justes aussi. Je ne développais pas trop maintenant cet exemple parce que ça peut être mal compris, par exemple la colère. Moi je sais qu'à un moment donné, même avec nos enfants, tu es en colère de dire non, ça, ça ne peut pas se faire. Vous voyez, mais attention, la colère ne doit jamais provenir d'une réaction. Quand une colère vient d'une réaction, en général c'est les sentiments qui dirigent. Or, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas ce qu'on ressent qui doit diriger la colère. C'est la justice de l'événement qui se produit, qui est en désaccord avec la parole. Voyez. Donc, il faut souvent un recul. Il faut un recul par rapport à des choses. Donc, il ne faut pas que la colère soit spontanée. En général, elle est toujours injuste. Elle est pas, voilà. Et l'enfant le ressent. Enfin, je parle de l'enfant, ça peut être d'autres colères. Pardon ? Oui, c'est plus de la folie. Voilà, on peut manifester ces deux choses qu'on vient de voir, colère et bonté, mais c'est plus la bonté. Mais parfois, il peut y avoir une colère, une sainte colère, comme on dit. Jésus, regardez, quand il a fouetté les marchands du temple, c'était une colère justifiée. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en faites eh bien, un espace marchand où vous vendez. Hein, et c'est ce qui a mis en colère Luther quand il est allé à Rome. qu'il a vu les indulgences, qu'il a vu ces pauvres gens qui mettent une pièce hein, pour gagner le paradis. Et vous, c'est une colère qui est juste là, qui manifeste la colère de Dieu. Mais c'est une colère qui l'a poussé non pas à prendre les armes, mais à prendre la parole. Et à traduire, c'est la première Bible qui a été traduite du grec, parce qu'avant c'était du latin, c'était donc déjà une déformation, vous voyez, de traduction, traître. Mais il a pris le grec, et à partir du grec, il a traduit en allemand. Et c'est la première Bible dans la langue vulgaire, qui ensuite après a été traduite dans d'autres langues naturelles, pour que chacun puisse connaître la parole de Dieu. Et c'était une colère qui était juste de la part de Luther, qui a amené la réforme de la Bible, la réforme de la foi. Mais aujourd'hui, nous aussi, on a besoin d'exprimer la colère. Aujourd'hui, il y a l'hérésie qui rentre dans l'Église. Aujourd'hui, il y a le gnosticisme qui rentre dans l'Église. C'est-à-dire, c'est des connaissances secrètes élevées. Qui vous dit, ouais, vous serez des élites spirituelles. Non. Tout ça, c'est ce qui va détruire la foi. Et là, c'est une juste colère que nous pouvons manifester, mais en allant plus loin. Et c'est pour ça, à cause de ça, moi j'ai proposé d'étudier la parole, d'aller plus loin dans la parole, vous voyez, d'étudier la théologie du royaume. Qu'on ne parle pas des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on pense connaître, etc., mais c'est basé sur la parole. Et ça, c'est une juste colère, c'est une sainte colère. C'est une colère qui amène à nous approfondir sur le roc de la parole, qui est Jésus-Christ. Donc, nous pouvons manifester une colère, mais c'est une colère qui est mesurée, qui est réfléchie, pour que nous n'allions pas à la dérive, mais que nous puissions avancer avec le Seigneur. Prions un instant. Seigneur, nous te remercions, parce que ta parole est la vérité. Et Seigneur, tu as exprimé dans ta parole les réalités qui sont en toi, que ce soit la bonté ou la colère. Mais Seigneur, c'est vrai que c'est la colère qui va toujours, que la bonté qui va toujours surpasser la colère. Parce que Seigneur, tu es amour. Et Seigneur, un jour, il y aura un jugement et les choses seront jugées de manière équitable, dans l'équité. Mais Seigneur, nous savons que si nous restons en toi et si nous nous confions en toi, nous allons bénéficier de ta bonté à jamais, ta miséricorde éternelle. Nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus. Amen.